au 106.9 Mauricie. Vous écoutez. Que la Mauricie se lève. Voici Alexis Sanson.
Hey, vendredi 13, à part de ça, pour aujourd'hui, c'est une journée spéciale parfois. Puis je trouvais ça mauditement intéressant de se dire, tu sais, que pense vendredi 13, il arrive toutes sortes d'affaires bizarres. Puis là, des fois, ouais, plus d'événements particuliers. La criminalité. Il y a eu plein de faits divers spéciaux cette semaine, puis Claude nous en parlait. Ça, c'est en 2021. En 1850, 1890, 1900, ça se passait comment dans le temps à Trois-Rivières? Il y a une conférence là-dessus, aujourd'hui, donnée par Francis Bergeron. C'est au manoir Boucher de Niverville, cet après-midi. Je vous redonnerai les détails tout à l'heure, là, mais sachez que 15h30 à 17h, c'est aujourd'hui, manoir Boucher de Niverville, vous pourrez aller voir ça, la petite criminalité à Trois-Rivières. Et je voulais prendre quelques minutes pour parler ce matin avec Francis, parce que je trouve ça vraiment intéressant comme thème. Il est avec nous autres. Bonjour, Francis.
Bonjour, M. Sanson.
La petite criminalité à Trois-Rivières, 1850 à 1990, c'est quoi ça?
Peut-être que ça, on en veut savoir quelques-uns d'entre vous, mais lorsqu'on parle de petite criminalité, mais on ne parle pas de la criminalité au sens qu'on entend aujourd'hui, donc ce n'est pas les meurtres sordides ou les vols importants. Donc, il n'y a pas vraiment de définition précise de la petite criminalité. C'est plutôt une notion subjective. C'est une notion qui peut varier selon les époques, les pays et même d'une ville à l'autre. Dans le fond, on attribue ça aux différences culturelles des sociétés, à leur sensibilité, à leurs préoccupations. Donc, en gros, là, la petite criminalité, c'est qu'est-ce qui constitue les délits qui contreviennent aux règlements et aux lois municipaux.
OK. Donc, entre 1850 et 1900, on parle de quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui contrevient aux règlements municipaux à l'époque?
En fait, c'est surtout les codes de conduite, tout ce qui est lié à la morale publique dans les rues et dans les lieux publics. Comme par exemple, on va parler beaucoup d'ivresse. Donc, le délit d'ivresse est considéré comme un délit mineur, donc qui va être jugé devant une cour plutôt civile, qui est la cour des sessions hebdomadaires de la paix de Trois-Rivières, qui est l'équivalent peut-être aujourd'hui d'une cour municipale. Donc, il y a différents types de délits mineurs qui vont être jugés devant ce cours-là. C'est ce qu'on voit pas mal durant toute la deuxième, durant la seconde moitié du 19e siècle, à Trois-Rivières.
OK, OK. Quand vous dites c'est jugé devant la cour, les institutions, à ce moment-là, ça marche comment? La police de Trois-Rivières, là, c'est une question niaiseuse, mais c'est arrivé quand, ça?
En fait, il y a le premier corps de police de Trois-Rivières qui va être permanent, qui va être créé en 1857, au même moment lorsqu'on va incorporer la ville en municipalité. Donc, c'est vraiment à partir des années 1850 qu'il va y avoir un corps de police qui va être permanent dans la ville, qui va exercer une certaine surveillance sur les populations qui sont plus à risque de contrevenir aux règles établies de la ville.
Population à risque de contrevenir aux règles de la ville, ça veut dire les troubles fêtes de l'époque, c'est ça?
Oui, exactement. En fait, on les associe surtout aux classes ouvrières. C'est les travailleurs saisonniers, par exemple, qui vont transiter dans la ville au courant de l'été, qui sont plus susceptibles à faire des désordres dans la rue, d'aller prendre un coup, par exemple, à l'hôtel, se battre dans les rues de la cité. Donc, c'est vraiment une population qui sont plus à risque à contrevenir aux règles établies, à l'opposé, par exemple, de l'élite urbaine que eux, mais c'était pas leur force de vie, on pourrait dire.
C'était quoi les secteurs problématiques? Parce que, tu sais, aujourd'hui, on parle de l'élite urbaine. Aujourd'hui, on a une conception de la ville de Trois-Rivières, mais à l'époque, c'était quoi les secteurs problématiques?
Mais on retrouve surtout les délits, c'est dans le centre-ville de Trois-Rivières actuel. C'est sûr qu'on en retrouve un peu partout dans la ville, mais vraiment dans la période étudiée de 1850 à 1900, c'est vraiment au centre-ville. Donc, il y a des rues vraiment plutôt principales où ça va être des lieux prédisposés pour la petite criminalité. Bon, on a la rue des Forges, par exemple. On a la rue Notre-Dame. On a aussi la rue Badeau. On a la rue, par exemple, aussi Bonaventure, qui va avoir plusieurs délits qui vont être liés à la petite criminalité. En fait, tout point de rassemblement, que ce soit des parcs publics, les hôtels où il y avait des débits de boissons, ça veut dire qu'on vendait de la boisson, c'est vraiment susceptible qu'il y ait des comportements répréhensifs à cette époque-là. Donc, dans les rues, ça peut être dans les hôtels, ça peut être au marché des denrées, Ça peut être même à l'intérieur des maisons privées lorsqu'on effectue des arrestations à ce moment-là.
OK. Est-ce que Trois-Rivières particulièrement était une ville qui était réputée pour être... parce que vous dites, c'est pas de la criminalité, c'est pas dangereuse, mais est-ce que crasse serait un bon mot? T'sais, est-ce que c'est une ville où il faisait bon vivre, où c'était cordial, ou c'était vraiment une des villes au Québec où on se disait, ouais, peut-être moins recommandé, là?
Je pense que c'était sensiblement la même chose que pour, par exemple, les villes de Montréal ou de Québec.
OK.
Je dis pas que c'était pas des... je pense pas qu'il y avait une réputation, que leur réputation était ternie, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une évolution des mœurs au courant de la période, donc une évolution des mœurs de la population. C'est pour cette raison-là qu'on va mettre, par exemple, des corps de police permanents. On va mettre en place des structures administratives pour mieux gérer l'ordre établi, par exemple.
OK. Si nous, aujourd'hui, on allait vivre dans cette ville-là de Trois-Rivières à l'époque, qu'est-ce qui nous aurait sauté aux yeux?
Je pense que on serait pas surpris, premièrement, de voir des ivrognes dans les rues. On serait pas surpris aussi de voir des bagarres, ce qu'on appelle des assauts. On serait pas surpris aussi de voir des vagabonds, c'est-à-dire ceux qui errent sans but précis dans la ville, qui sont souvent désœuvrés, sans résidence. Donc, on côtoierait sûrement cette clientèle de personnes-là dans la rue. Puis on trouverait aussi que peut-être que le Trois-Rivières du 19e siècle était plutôt animé. Donc, ça pourrait peut-être ressembler à ce qu'on voit aujourd'hui, là, si on va se promener au centre-ville un samedi soir après 11 heures. Mais je pense qu'on pourrait voir le même type de clientèle à cette époque-là.
Puis, est-ce qu'on essayait de régler ça, tu sais, les vrais sur la voie publique, les bagarres? Est-ce qu'on se disait, OK, il faut vraiment enrayer ça, ça n'a pas de bon sens, Trois-Rivières? Ou ça faisait partie du quotidien?
C'est pour ça qu'on va mettre en place, par exemple, un corps de police permanent. C'est justement pour réprimer... ces délits-là, lorsqu'il y en avait, mais les sentences qu'on pouvait leur donner, ça pouvait être des amendes et des frais qui étaient reliés à ça. Dans certains cas, ça peut être des peines de prison. Donc, il y avait vraiment un mécanisme de répression qui était mis en place justement pour décourager les gens qui étaient susceptibles à contourner aux règles établies de le faire, finalement.
Est-ce qu'on sait qui était à la mairie de Trois-Rivières à cette époque-là?
Oui, on est capable de le savoir. Je dois avouer que, par contre, je ne l'ai pas là devant moi. Oui, c'est sûr qu'on est capable de trouver les informations, soit dans des livres ou sur le web directement.
Okay.
Par contre, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner qui était le maire à ce moment-là, puisque je couvre quand même une période de 50 ans.
Oui, ben c'est ça. Puis en même temps que je vous ai dit ça, je me suis dit, je vais aller voir pour le fun. Le premier maire... Bon, on dit
c'est
premier maire.
Dumoulin, son...
Oui, Pierre... Ouais, exact. Pierre-Benjamin Dumoulin, mais il était là un an. Puis ensuite, là, il est revenu, par contre. Il était là de 45-46. Il est revenu en 53-54. Ça a débouché, là, sincèrement, pas pire, parce que il y a eu, là, en l'époque de 20 ans, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maires en l'époque de 20 ans. Ça fait que ça régnait pas très, très longtemps. Je sais pas c'est dû à quoi, là. Je sais pas si vous avez une hypothèse là-dessus, mais ça succédait assez rapidement, là.
Ben, en fait, c'est que à partir de 1840, il y a des lois qui sont mises en place pour justement améliorer les structures administratives municipales. Donc, il y a eu des lois en 1840, en 1845, 1855 et 1857, pour nommer que. Et puis, à chaque fois, ben, on donnait un petit peu plus de pouvoir au conseil municipal. Donc, en 1845, si ma mémoire est bonne, on va élire de 8 conseillers. Parmi eux, mais on va élire un maire ensuite, mais on va augmenter le nombre de conseillers. On va élire aussi un maire parmi les notables républicains. Fait que ça se peut qu'il y ait eu une évolution au niveau de l'administration municipale qui a permis qu'il y ait plusieurs maires qui se sont suivis par la suite.
Et puis, faut dire que la tendance des gens qui se présentent en politique, qui sont avocats, ça date pas d'hier. Ils étaient tous avocats à l'époque. Je trouvais ça intéressant. Puis juste avant de vous laisser, M. Bergeron...
Oui.
Qu'est-ce qu'on donnait comme peine? T'sais, aujourd'hui, on parle les peines bonbons. Puis, à l'époque, ça ressemblait à quoi une peine? T'sais, je sais pas. Donnez-moi des exemples si vous en avez. Ivrogne, t'sais, sur la voie publique, bagarre, ou ça ressemblait à quoi en général?
Ben, en fait, la quasi-totalité des délits là, qu'on recense durant la période, là, c'était toutes des sentences, des amendes qui étaient reliées à des frais.
Okay.
Donc, si par exemple, lorsque c'était des délits d'ivresse ou de vagabondage, mais les amendes n'allaient pas plus haut de 10 $. Donc, c'était entre 1 $ et 10 $ à l'époque. Là, c'était sûrement, je ne pourrais pas vous dire à combien ça équivaut aujourd'hui. Ça pouvait être plus élevé lorsque, par exemple, c'était quelqu'un qui était arrêté pour avoir vendu de l'alcool illégalement. Étant donné qu'il y a des lois de l'État provincial qui les en place, mais c'est comme une atteinte à l'État. Donc, ça, les sentences et les amendes étaient beaucoup plus élevées. Donc, ça pouvait aller jusqu'à 200 $ lorsqu'on était pris à vendre de l'alcool illégal. Donc, au 19e siècle, là, je le rappelle.
OK. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser ça ce matin pour
ça fait plaisir.
Tout ce que vous devez savoir sur la petite criminalité à Trois-Rivières entre 1850 et 1900. C'est cet après-midi ou en soirée que ça se passe, dépendamment comment vous voyez votre journée, à quelle heure vous vous levez. 15h30 à 17h au Manoir Boucher de Niverville. C'est gratuit. Vous pouvez réserver. Allez voir, les détails sont sur Culture Trois-Rivières. Vous allez voir tout ça de ce côté-là. Et puis, si jamais il pleut, ben ça va être annulé, mais ça devrait être pas si mal. Là. C'est en soirée, la pluie. En après-midi, on devrait être correct. On vous suggère d'amener vos chaises pour aller rencontrer Francis et l'écouter nous raconter toutes ces histoires-là. Merci, Francis, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin.
Mais ça m'a fait plaisir, M. Sanson.
Merci, à la prochaine.
Oui, bonne journée.
Bonne journée, bye-bye. Francis Bergeron, qui est le conférencier, qui va nous raconter l'histoire de la petite criminalité de Trois-Rivières.